De grosses transformations secouent le monde. Crise sanitaire mondiale, digitalisation de notre société, montée en puissance de l'intelligence artificielle, révision des accords de libre-échange, fluctuations boursières, des transformations qui ont un impact direct sur votre quotidien. Torontois et Torontoises, pour vous permettre de mieux comprendre ces mouvances, la Radio Choc FM 105.1 vous propose un coup de phare quotidien sur l'actualité avec Tierno Soumaré. Écoutez Plein Feu Grand Toronto du lundi au vendredi de 8h à 9h sur Choc FM 105.1.
Bonjour, vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1 au micro de Tierno Soumaré et sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Amar Belokan du Collège Boréal. Bonjour Amar.
Bonjour.
Peux-tu te présenter un peu aux éditeurs de Choc FM, tout en sachant que vous n'êtes pas, une personne étrangère de Choc FM?
Tu as déjà présenté mon nom. Bon, c'est Amar Belokan. Je travaille au Collège Boréal et puis en tant que chef intérimaire des programmes et services au Collège Boréal ici au campus de Toronto. En fait, je suis en charge de deux programmes, de deux départements. Le premier, celui de l'immigration, et le second, celui de l'emploi.
Selon Statistique Canada et l'Ontario, a réalisé un gain de 150 700 emplois en juillet. Cela fait suite au gain de 377 900 emplois, dont 66 200 emplois dans le secteur manufacturier. Quelle interprétation faites-vous de ces chiffres?
En fait, l'interprétation, probablement qu'il ne faut pas la faire sur le chiffre global qui est sorti. Effectivement, la courbe est devenue ascendante depuis le mois de mai pour la plupart des secteurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les secteurs qui ont le plus évolué. Et puis, ça va donner les tendances pour plus tard et ce qui va se passer. Donc, comme l'Ontario, il y a eu beaucoup de pertes de travail, mais on s'en sort pas mal. Et puis la courbe, ce qui est intéressant aussi, c'est que la courbe de l'Ontario elle suit pratiquement celle du Canada en général. Si je prends l'exemple, dans le secteur de l'agriculture, là on remarque une baisse. Elle est légère, mais on remarque une baisse. Il n'y a pas eu d'augmentation dans le domaine de l'agriculture. Par contre, de l'autre côté, dans le domaine de la foresterie, des pêches et mines, là on a remarqué qu'il y a une augmentation. Le secteur du service aussi, à partir du mois de mars, ça a commencé à baisser. Et ensuite, depuis je pense le mois de mai, là on remarque qu'il y a une augmentation. Et on le remarque aussi sur le terrain, par exemple sur nos services d'emploi. Ces chiffres-là, il faut vraiment les prendre pas uniquement avec précaution, parce qu'il y a un décalage dans le temps entre le moment où toutes les informations sont enregistrées, que ce soit au niveau de Statistique Canada ou au niveau des agences. Donc il y a toujours un petit délai, mais on a toujours un delta sur lequel on compte. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que la courbe est ascendante, que ce soit au Canada ou que ce soit en Ontario. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans quel secteur ça augmente le plus.
Est-ce qu'il s'agit de nouveaux emplois créés ou des emplois supprimés qui ont été réactualisés?
Très probablement, il y a des emplois. Il y a une partie c'est des emplois qui ont été créés et puis l'autre partie, ce sont les remplacements des départs. Ça, c'est certain. Il y a eu des départs, il y a eu des mises à pied au mois de mars. Ça a commencé, je pense, au début de mars et tout ça. Mais maintenant, ça reprend. Secteur industriel reprend de plus en plus. Et puis, ça dépend aussi des régions. Je vous donne un exemple. Il y a une différence, c'est surtout des secteurs, une différence entre le centre sud-ouest, par exemple, et le nord. Donc, au nord, par exemple, le secteur minier, ils sont en train de, si je peux permettre de dire l'expression, ils sont en train de recruter à tout va. Et on remarque qu'il y a, juste sur certaines données, les logements ici, par exemple, à Toronto, se vident. Et puis, au nord, se remplissent. Il y a un flux qui se fait du centre, ou bien du centre sud-ouest vers le nord. Parce que le secteur minier se porte bien et puis qu'ils sont en train de recruter. Le secteur minier et tout ce qui est affilié au secteur minier. C'est ça qui est intéressant à voir.
Connaissez-vous la situation dans les autres provinces aussi?
Pardon?
Quelle est la situation dans les autres provinces?
Dans les autres provinces, c'est c'est à peu près la même tendance, ce sont juste les secteurs qui sont différents. Si je prends le secteur de l'agriculture, c'est exactement la même chose qu'en Ontario. C'est pareil, donc c'est une courbe ascendante, légèrement, mais ascendante. Mais dans le secteur manufacturé, il y a une augmentation. Quand je vous ai dit, si on prend les chiffres de l'Ontario, et on prend les chiffres du Canada, c'est à peu près pareil, mais par province, il peut y avoir des différences selon les secteurs. Pas sûr, mais la reprise, elle est là, à travers pratiquement tout le Canada.
Quel type d'emplois ont été créés, selon vous?
Alors, les emplois qui ont été créés, c'est surtout, alors, il y a dans le domaine de la santé. Donc, ça, c'est la première des choses selon la situation. Il y a les services d'hébergement et de restauration. C'est encore, la courbe, elle est vraiment, descendante et puis elle remonte. Pourtant, le tourisme n'a pas repris ici, mais malgré ça, on voit qu'il y a un tout petit regain. Et ça, c'est aussi intéressant à tenir compte. La plus grosse hausse que moi j'ai notée, c'est dans le commerce de gros et de détail et le secteur des services. Donc ça, c'est la plus grosse hausse qu'il y a eu sur le marché de l'emploi.
Est-ce que ce sont des emplois bien rémunérés ou avec certaines sécurités ou des emplois volatiles?
Non, ce sont des emplois rémunérés, ce qu'il y a pour la plupart d'entre eux. Des emplois rémunérés. Ce qui a posé aussi un petit souci en cette reprise, c'est qu'il faut attendre peut-être quelques mois pour voir quels sont les résultats. Pour les personnes qui ont été mises à pied et qui ont bénéficié de la PCU, de la prestation canadienne d'urgence, c'est vrai que pour certains d'entre elles, je vous parle juste de l'expérience qu'on a eue. On a nos clients qui ont perdu leur emploi, mais parfois, ils préfèrent garder la prestation. Que d'aller chercher un travail précaire. Donc ça peut un peu fausser les données.
Qu'est-ce qui explique l'essor du secteur manufacturier malgré le ralentissement causé par le confinement?
Malgré le ralentissement, il faut penser aussi à une chose, c'est que le secteur manufacturier a bénéficié de beaucoup d'aides de l'État. Je parle surtout du gouvernement fédéral et aussi du gouvernement provincial. Donc l'industrie a pu bénéficier d'une certaine aide qui ont maintenu leurs activités un peu à flot. Et puis, ce qu'on voit avec ce confinement-là, maintenant, nous, les Canadiens, ce qu'on fait, c'est qu'on se retourne vers nos produits canadiens. Donc, quand on voit que l'importation a subi un gros impact, il y a un encouragement de consommer canadien. Et là, ça encourage notre industrie ou nos services ou n'importe quel domaine économique. Donc ça peut être l'une des explications.
Et comment s'en sortent les autres secteurs traditionnels de notre économie?
Ouais. Comme je vous ai dit, si vous voyez pour l'agriculture, là, on ressent une baisse. Puis la baisse sur l'agriculture, c'est pas une baisse de consommation pour l'emploi. Le secteur de l'agriculture, on le sait, je sais pas pour le reste du Canada, mais si on prend la province du Québec, si on prend l'Ontario, on compte énormément sur les travailleurs étrangers. Et puis avec la fermeture des frontières et puis avec le confinement, ça n'a pas été possible. Et donc ça a eu un impact. Ça a eu vraiment un impact sur ça. Et puis on voit par exemple l'industrie de l'aviation, comme Bombardier, vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup de mises à pied. Mais par contre, il y a des recrutements dans d'autres secteurs. Donc, ils essayent d'équilibrer ça. Donc, là, je pense qu'on aura une analyse un peu plus précise au bout d'une année, à partir du mois de mars. Et là, on va vraiment voir où est-ce qu'on s'en va. Il y a déjà des... Juste pour vous donner cette information, il y a déjà des recherches et des analyses qui ont été faites qui donnent une idée un peu quels sont les métiers ou les professions qui vont être les plus demandées, les plus convoitées, que ce soit les carrières les plus convoitées. Alors on voit que dans leur liste, il y a une liste de 15 secteurs, de 15 emplois, de 15 positions, comme on dit, et ça c'est pour les 5 prochaines années. On parle surtout, par exemple, les préposés aux soins à domicile, les assistantes infirmières. Il y a aussi le travail de construction, donc on prévoit une hausse de ça, une forte demande sur ça. Physiothérapie, camionneur, la liste est, elle est, c'est pas dans l'ordre. Hein. Donc il y a une liste de 15 secteurs d'emploi, et puis c'est pas uniquement des, c'est pas des emplois précaires, ce sont des emplois permanents, et puis c'est des carrières en plus, c'est pas juste un job temporaire.
Donc selon vous, l'industrie des services se porte parfaitement bien, alors où elle va se porter parfaitement bien?
Oui, on a l'espoir, on a vraiment l'espoir. Les signes le démontrent un peu, et puis on a vraiment espoir. C'est certain, après cette crise, il y aura des conséquences sur peut-être certaines industries ou bien certains secteurs de l'industrie, mais moi je suis convaincu que le Canada s'est pris assez tôt, assez tôt pour pouvoir mettre en place des mesures pour pouvoir protéger son industrie. Il y en a certaines ça va fonctionner, d'autres ça va pas fonctionner, mais dans l'ensemble, il y a un optimisme sur le marché de l'emploi. C'est ça qui est intéressant. Donc, les grosses industries ne sont pas très, très inquiètes. Le seul problème pour l'industrie manufacturière et tout ça, c'est pendant cette période-là, comment se maintenir à flot? Comment équilibrer sa trésorerie? L'économie reprendra. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va reprendre à 100%. Ça ne va pas être pour cette année, ça ne va pas être, pour l'année prochaine. Il faut prévoir ça sur les 3 années à venir.
La petite enfance semble prendre de l'ampleur aussi, des investissements dans la petite enfance semble prendre de l'ampleur aussi, des investissements.
Oui, absolument. Dans ce secteur-là, écoutez, vous faites bien de le mentionner. Nous, au Collège Boréal, on travaille énormément avec les garderies. Et depuis à peu près 2 semaines, parce qu'ils sont en train de se préparer à reprendre, depuis 2 semaines, on a une forte demande. Donc, de la part des employeurs. Une forte demande de la part des employeurs et les clients sont là, les professionnels sont là.
Le monde post-Covid sera un monde télétravail et un monde où l'intelligence artificielle occupera une place incontournable. Êtes-vous d'accord avec ça?
Ça, c'est la grande question. Pour l'intelligence artificielle, je ne pense pas qu'elle va prendre une grande place, dans les 2-3 prochaines années. L'intelligence artificielle dans certains secteurs, elle est là, elle existe et puis elle va faire partie de notre vie et ça, on va s'y habituer. Par contre, pour le télétravail, ça c'est vraiment la grande question. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va... Je vous donnais juste un exemple. Sur certaines compagnies ici à Toronto qui sont dans le web design, dans le domaine technologique, cette situation... arrange un peu leurs finances parce que ils ne louent plus les locaux, tous leurs employés sont en télétravail. Là, je parle par exemple d'une compagnie particulière qui est ici à Toronto, qui avait 40 employés, ils n'ont appelé personne et puis tout le monde travaille de chez lui. Et là, l'équipe est en train de se développer. Et donc ça, c'est des nouvelles pratiques qui vont s'installer doucement, et puis le télétravail. C'est quelque chose qui va changer un peu le visage du monde du travail. Et ça, c'est sur toute la planète. Ça, c'est certain. Ça apporte ses avantages, mais ça apporte aussi ses inconvénients. On les verra plus tard.
Par contre, en tenant compte de cette réalité, est-ce que le gouvernement investit, selon vous, suffisamment dans la mise en place des programmes de formation pour permettre au grand public de se préparer à ce nouveau paradigme?
Je pense que oui. Le gouvernement a déjà investi. Je vais parler surtout pour les programmes que moi je connais et que je gère. Le gouvernement a déjà investi bien avant cette crise-là pour le télétravail, mais pour les formations en mode alternatif. Donc ça c'est une chose qui a été faite. Quand au début de cette pandémie, quand cette crise a commencé, je prends l'exemple du Collège Boréal, au niveau de toute la province. La transition s'est faite d'une manière très souple. On n'a eu aucune interruption de service, que ce soit pour les cours qui sont offerts aux étudiants à tous les niveaux, que ce soit du postsecondaire, que ce soit dans nos, vous avez mentionné Est-ce que le gouvernement investit dans des formations? Oui, par exemple pour les programmes relais. Nos programmes relais n'ont subi aucune interruption. Dans nos programmes de, comment dire, dans nos programmes de formation langagière, aucune interruption. Donc, tout s'est passé. C'est, pour certains programmes, pour vous dire, pour certains programmes, on a, il y a plus d'intérêt pour les clients. Je parle des personnes qui sont intéressées par prendre ces formations. Il y a plus d'intérêt à le faire en ligne qu'à le faire en salle. Donc, on a constaté une hausse de la demande. Donc, et ça c'est, comment dire, c'est très bien. Donc, et le gouvernement a investi dans tout ça. Que ce soit au niveau provincial ou fédéral.
D'ailleurs, quels seront les emplois du futur?
Les emplois du futur, ce sont de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai cité quelques emplois. Le domaine de la santé qui va recruter énormément parce qu'on s'est rendu compte avec cette crise qu'il y avait des lacunes. Parce qu'auparavant, on savait qu'il y avait des lacunes, on savait qu'il y avait une pénurie, par exemple, d'infirmières, on avait une pénurie d'assistantes infirmières et tout ça, mais on ne se rendait pas compte de l'ampleur. On s'en est rendu compte que quand la crise a débuté, juste pour dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, c'est-à-dire que pour les assistantes infirmières, ben, certains qui n'ont pas encore fini leurs études ont été recrutés, que ce soit à titre bénévole ou rémunéré ou dans le cadre d'un stage, ils ont été recrutés par les hôpitaux. Donc ça, c'est un secteur qui va se développer. La construction aussi va probablement se développer parce que c'est juste historiquement la construction subit, peu importe la crise qui va arriver. Quand elle subit une baisse, ben l'augmentation, elle est, ça va prendre du temps pour que ça reprenne. Mais par contre, si quand on va reprendre, ça va reprendre très rapidement. Donc c'est ça il y a aussi sur les rapports que j'ai lus, il y a dans le domaine du transport et de la logistique. Ça c'est un domaine qui va se développer. Et puis bien sûr les domaines technologiques, par exemple les développeurs web, les administrateurs de sites, les développeurs de logiciels, parce que tout le monde pratiquement s'est mis aux nouvelles technologies. Donc les gens maintenant, la plupart des gens, c'est quand même un apprentissage pour eux. Ils se sont familiarisés avec tous les outils qu'on a à notre disposition. Maintenant, on communique. À part le téléphone qui existe, maintenant, on communique par les plateformes telles que Zoom ou Teams ou Microsoft Teams ou bien, il y en a beaucoup. Et puis maintenant, je connaissais des gens qui savaient même pas ce que c'était, qui savaient même pas le manipuler. Et puis, maintenant, c'est eux qui sont en train de m'apprendre quelques astuces. Donc, les gens s'adaptent rapidement à ça. Et puis, et ça va aller, ça, moi, pour ma part, c'est ce qui va évoluer le plus rapidement, c'est la santé, les nouvelles technologies. Le secteur des services, ça c'est certain. Il va y avoir du, mais on va pas ressentir ça, probablement qu'on va pas ressentir ça assez rapidement. Donc on va pas voir cette transition-là va se faire d'une manière un peu souple.
On finira jamais sans pour autant poser une question de la francophonie. Est-ce qu'il y aura plus ou moins de place pour les francophones sur le marché du travail local au sein de ces mouvances?
Il va y avoir. Ça, ce sont les mêmes opportunités que pour n'importe quel résident. D'accord. Mais dans le secteur de la francophonie, quand je vois, je donne juste l'exemple, les garderies, on en a parlé tout à l'heure, les garderies francophones, là, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Et ça, c'est certain. Et puis, c'est un secteur qui est très prisé. Quand je prends l'exemple des formations qui sont offertes au Collège Montréal, préposées aux soins, soutien aux personnes. Donc ce sont des formations qui sont pratiquement pleines à chaque année. Et ça, c'est destiné aux francophones. Donc et toutes ces personnes-là vont être elles intègrent le marché francophone, si je puis dire, au niveau des écoles ou au niveau des garderies, ça c'est dans le secteur de l'éducation et des soins, bien entendu. Donc ça c'est le marché pour l'emploi francophone, il va se développer en parallèle avec la relance de l'économie. Ça c'est certain. Et puis quand vous voyez, si vous voyez autour de vous les organismes, parce que si on parle d'un marché d'emploi francophone, j'ai les plus grands employeurs, qui sont francophones ou le travail se fait en français, ce sont surtout les organismes communautaires et le gouvernement. Car jusqu'à aujourd'hui, pour le gouvernement, ben, les postes bilingues, comme on dit, sont très, très, très recherchés, très convoités, prisés et en demande. Donc, moi, je ne serais pas trop inquiet pour la francophonie. La seule chose pour laquelle il va y avoir un impact, c'est à cause de cette crise-là, il y a aussi l'immigration francophone. Le problème qui se pose maintenant, c'est que les frontières sont fermées, et puis pas uniquement ça, c'est que des gens sont en attente de leur statut de la part du RCC, et puis avec cette crise-là, ben, ça prend un peu plus de temps. Peut-être que quand leur visa va être délivré ou leur statut va être déterminé, ils arriveront au bon moment où l'économie sera au moins, comment dire, à 30 ou 40% de ses capacités, ça serait une excellente chose, et là, ils n'auront pas de difficulté à trouver de l'emploi et à s'intégrer économiquement ici.
En tout cas, merci Amar Boulakan. C'est un plaisir de vous avoir sur les ondes de Choc FM 105 ans, comme toujours.
Merci beaucoup. Bonne journée et faites attention, c'est surtout ça. Ok, prends soin de toi.
Allez, vous êtes sur les ondes de Choc FM 105 ans, au micro de Tcherno Soumaré sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. À présent, la suite des programmes sur la 105 ans.
Cette série originale de Choc FM 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 105.1 sur Facebook.